langage parfois savant, pour pas dire hermétique, de Bourdieu, c'est dispositionnel. Le dispositionnalisme. Voilà un mot qui revient, et plus que ça, dans son travail sur Manet.
Oui, alors ça, ça fait partie du projet qu'il avait en écrivant ce livre, c'est-à-dire comprendre non pas les choses telles qu'on les voit, mais comment elles ont été construites, comment elles ont été conçues avant même qu'elles se projettent sur la toile. Donc, c'est-à-dire reconstituer le processus de genèse, d'une touche de peinture, à la limite c'est ça, ou du choix d'un sujet, du choix d'un cadrage, du choix de l'harmonie des couleurs, ou au contraire de la disharmonie des couleurs, le choix de... Enfin, tout ce qui fait qu'un tableau est un tableau, mais le reconstituer dans un processus intellectuel antérieur à sa projection sur la toile. Donc, pour Manet, je pense qu'on peut arriver presque à le faire parce qu'on a une masse d'informations, d'analyses, d'études, même de chaque tableau à travers les esquisses, etc. Bon, mais c'est donc presque se mettre à la place du peintre, se resituer dans ce qu'il attend, dans ce qu'il voudrait faire, dans ce qu'il n'arrive pas à faire ou dans ce qui l'empêche de le faire. Donc, il y a aussi l'idée de la censure. Hein. Qu'est-ce qui permet à un peintre de se libérer d'une censure de l'art établi ou de tel sujet qui n'est pas conforme à la morale de l'époque. Enfin, il y a toutes sortes de freins que nous, on ne conçoit plus parce que l'époque s'est beaucoup plus libérée que celle du 19e siècle. Mais dans les sujets de Manet, il y avait aussi ça qui jugeait Olympia, elle fait scandale, pas seulement parce qu'elle est peinte d'une certaine façon, mais aussi parce qu'elle incarne une certaine image de la femme. Et cette femme, les contemporains l'identifient à une prostituée. Donc, comment une prostituée peut-elle être un sujet digne d'être mis en peinture? C'est déjà en soi un défi, puisqu'il y a des sujets convenables et pas convenables au 19e siècle. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut reconstituer pour vraiment comprendre à la fois l'audace, parfois aussi la limitation politique
majeure. Il y a des libertés que prend Manet par rapport à la peinture. Si je pense au bar des Folies Bergères, par exemple, avec cette femme magnifique, etc. Mais on voit sur la partie droite du tableau un homme qui est très proche d'elle alors qu'elle est face à nous.
Oui,
donc il y a des jeux avec la perspective, des incongruités avec la perspective. Où est-ce qu'il y a un miroir là? Non, etc. Comme la femme qui est au fond, dans le fond du déjeuner sur l'herbe, qui n'est pas à la bonne taille,
les conventions. Il y a une rupture avec les conventions académiques.
Voilà, et ça il le sait parfaitement parce qu'il sait parfaitement comment.
Parce qu'il les a apprises, donc il les connaît.
Il les a apprises, il sait très bien comment on pose une figure dans un pays. Etc. Donc il dit non, je vais représenter ça comme ça. Donc il y a une volonté dont on ne sait rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Manet, dans la main de Manet, dans l'œil de Manet quand il peint cette chose-là? C'est ce que voudrait bien comprendre Bourdieu.
Bah oui.
Et nous faire comprendre, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Finalement, en vous écoutant, on se dit ben, c'est un miracle, Manet. Parce qu'il n'avait aucune raison de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Manet? C'était un bourgeois, tranquille, dans son époque, avec une belle vie. Il aurait pu vivre, comme, je sais pas moi, comme Degas ou tous ces gens-là, qui étaient très habiles.
Degas aussi, il fait des
ruptures. Oui, Bourdieu a une phrase dans un de ses cours qui traduit un tout petit peu le fait que c'était assez étonnant, effectivement. Il dit, il appartient à ces révolutionnaires symboliques, c'est-à-dire ces individus improbables, très étranges, qui retourne la maîtrise qu'il possède d'un système contre ce système lui-même pour le subvertir.
Alors qu'ils sont dedans,
et qu'ils pourraient en bénéficier de manière considérable. Et ils choisissent une voie qui, au contraire, les fait percevoir comme des fous. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il pose la question, c'est comment Manet a fait pour ne pas se suicider dans le monde de contestation de son œuvre qu'il a vécu.
Et alors qu'il n'a pas l'air d'un révolutionnaire. Lui-même, physiquement, si on regarde les photos qu'on a de lui, les portraits qu'il fait de lui-même, et le portrait qu'il fait de son entourage social, son milieu social, c'est des chapeaux wirflés.
Bourdieu non plus n'était pas habillé en révolutionnaire.
Oui, il n'était pas déguisé. Voilà. Peut-être se méfier des révolutionnaires déguisés en révolutionnaires.
Oui, peut-être.
Non, je crois que parce que, justement, il a ses atouts sociaux, c'est-à-dire il n'est pas dépendant de la peinture en tant que moyen de vivre. Donc c'est le fait d'être un bourgeois qui lui donne cette liberté. S'il avait dépendu de sa vente pour vivre, il n'aurait certainement pas continué. Il aurait fait quelques tableaux un peu révolutionnaires, mais il aurait très vite compris qu'il valait mieux faire autre chose.
Il avait dans la tête et dans l'œil une culture de son époque, une culture de la peinture de son époque absolument considérable. Là, on parle de révolutionnaires symboliques, c'est-à-dire de gens qui ont un capital absolument énorme de connaissances à partir duquel se fait...
Et de travail.
Et de travail.
Oui, c'est ça. C'est pas... Il n'y a pas tous